Chers auditeurs, auditrices de Radio Capi, bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour promouvoir l'économie blé en RDC? Nous en parlons avec M. Junior Chiteya, il est entrepreneur expert en économie durable. Il est au bout de fil, il intervient depuis la ville de Kinshasa. M. Junior Chiteya, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'Okapi.
Nous aurons également dans cette première tranche comme deuxième invitée, Madame Maïcha Patricia. Elle est présidente nationale du réseau pour le développement intégral du Congo, REDIC en sigle. Elle est spécialiste en gestion des ressources halieutiques et économie bleue durable. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos commentaires par les mêmes numéros, c'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos suggestions dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce magazine. Gaston Vezolo assure la réalisation et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Que faut-il faire pour promouvoir l'économie blé en RDC? C'est le thème que nous abordons dans ces magazines au Capi Service, les magazines des faits de société de Radio Capi dans sa première partie. Les principaux secteurs de l'économie bleue, ça reste la pêche des captures dans le fleuve Congo et ses affluents, les lacs, les rivières et autres cours d'eau de la République démocratique du Congo, selon les spécialistes en écologie du milieu aquatique. C'est vrai en tout cas en termes d'emploi, la pêche, en particulier la pêche artisanale, la petite pêche, c'est plus de 12 millions d'emplois sur les continents africains, dont la moitié est occupée par des femmes, d'après les spécialistes en ressources halieutiques. Quels sont les facteurs qui affectent le développement de l'économie bleue en RDC? Nous en parlons dans cette première partie d'Okapi Service avec nos deux invités. Monsieur Junior Chiteya, il est déjà en ligne, il est entrepreneur et spécialiste en économie durable. Monsieur Junior Chiteya, en des termes simples, que devons-nous comprendre par les concepts composés économie bleue?
Nous devrions comprendre par cela un principe simple qui est de l'économie de l'eau. L'eau est une ressource vitale pour la vie, pour les économies, et c'est même l'un des habitats les plus importants au monde en matière de biodiversité qui alimente l'économie de la planète. Et toute la thématique liée à ce que l'on appellerait l'économie de l'eau ou l'économie bleue est soutenue par l'objectif du développement durable 14, parlant de la vie aquatique. Mmh. C'est donc un pilier clé aussi bien pour l'économie mondiale et nationale, locale, du ménage, mais également un volet essentiel de l'engagement pour la transformation globale tel que défini dans l'agenda 2030 des objectifs du développement durable.
Et quel état des lieux faites-vous de cette économie bleue en République démocratique du Congo?
Il est essentiel d'abord de comprendre que la dimension proprement dite économique ou stratégique de l'économie bleue en RDC est toute proportion gardée assez embryonnaire, aussi bien au niveau de la construction des infrastructures légales pour la soutenir, au niveau de la planification stratégique, mais également et surtout au niveau de la protection même de la ressource qu'est l'eau, la ressource première qu'est l'eau, que sont les ressources hydrauliques, que sont les zones humides. Effectivement, il y a beaucoup de volonté politique, beaucoup d'engagements techniques également qui sont mis en place, mais comme on le dit toujours, c'est au résultat qu'on s'évalue. Aujourd'hui, nous avons une ville de Kinshasa de 20 millions d'habitants qui s'alimente essentiellement du poisson importé. Mmh. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faudrait séparer la question de la vie aquatique, la question de la ressource halieutique, de la question de la gestion durable des ressources en eau, de la question intégrale dite de l'économie bleue. Tout simplement parce que lorsque l'on voudrait aborder par exemple la question des ressources naturelles que nous fournissent nos eaux, il y a également la nécessité de se poser la question comment ces eaux sont traitées, comment ces eaux sont entretenues. Et donc, le temps d'aborder les aspects spécifiques, techniques de l'état de cette économie, il est lieu également d'aborder la question de la prise en charge institutionnelle et stratégique de cette problématique qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale que au-delà simplement d'être un lieu d'extraction du poisson.
Monsieur Junior Tuitea, vous avez soutenu dans votre argumentaire que il est à l'état embryonnaire l'économie bleue en RDC et pourtant nous avons les potentialités des ressources en eau douce, plus de 50% des ressources en eau douce de l'Afrique, on est considéré comme les châteaux d'eau de l'Afrique, Monsieur Junior Tuitea.
Effectivement, nous sommes certainement considérés comme les châteaux d'eau. Mais nous sommes également considérés comme greniers du monde pour nourrir les gens, considérés comme premier puits de carbone forestier au monde, considérés comme premier fournisseur de matériaux, des ressources minières. La RDC est potentiellement riche en tout. Mais la véritable question est la même, c'est celle de transformer le potentiel en réponse économique et socio-écologique pour le bien-être des communautés. C'est de cela qu'il s'agit. Et si nous devons aborder cette problématique, j'insiste sur la nécessité d'avoir une vision holistique et stratégique. La vision holistique veut dire c'est quoi la dimension opérationnelle de l'économie bleue, comment elle est prise en charge pour les intérêts du pays et des populations actuellement. Vous allez remarquer que l'ODD 14 dont j'ai parlé, ça je parle de la dimension holistique, de la dimension planification du développement. L'ODD 14 dont j'ai parlé aborde les questions par exemple de la pollution marine et aquatique, aborde la question de la gestion durable des écosystèmes marins, fluviaux et côtiers, aborde surtout la question de la réglementation de la pêche. Parce que je dois rappeler ici que les études ont démontré que l'économie mondiale est fortement menacée par la perte de la nature, et l'un des domaines où la perte de la nature, et je veux donner un chiffre, la perte de la nature pourrait représenter un manque à gagner pour les économies mondiales de 44 000 milliards de dollars. Et l'un des 10 déterminants de la perte de la nature, c'est la surpêche ou les modes de pêche peu durables.
Des pratiques prohibées des pêcheurs.
Exactement. Et malheureusement, nous sommes en train de constater, je rappelle, qu'au niveau de la planification stratégique du développement du secteur de l'économie bleue, nous avons un certain déficit assez important. Et Madame Maïcha, qui est ici présente,
elle arrivera d'un moment à l'autre, elle est un peu en retard, oui.
Oui, qui est sans doute une des personnes la plus outillée en la matière, vous montrera les faiblesses de nos lois, vous montrera l'absence de nos stratégies nationales dans cette thématique. Et, fort malheureusement, nous sommes en train de constater qu'il y a certes des initiatives qui sont mises en place, mais est-ce que ces initiatives sont mises dans un contexte de planification holistique? Comme je le disais ici, donc, il y a la menace réelle sur les moyens de subsistance. Ça, c'est d'une part à cause des pratiques. Mais il y a encore un autre fait important, c'est celui que nous subissons aujourd'hui, les changements climatiques. À cause des changements climatiques, il a été démontré que la RDC est l'un des pays les plus vulnérables pour son secteur de la pêche et donc pour son alimentation en protéines animales venant du poisson, pour les secteurs de la pêche, à cause des impacts de moindre variabilité sur les climats qui impactent directement la productivité et la disponibilité
de ressources halieutiques.
Donc, ici, et enfin, la troisième menace, c'est la déforestation. Sans forêt, il n'y a pas d'eau. Nous avons ce que nous avons comme ressource en eau parce que nous avons des forêts. Mais il est démontré clairement que le rythme effréné de la déforestation est clairement en train d'exacerber déjà la raréfaction des ressources en eau, d'une part, et d'autre part, à réduire la disponibilité même du poisson avec la perte de la biodiversité. Par exemple, les excréments des éléphants sont de la nourriture pour les poissons, et quand vous déboisez et que les éléphants disparaissent, cette zone-là, les poissons également s'effondrent. Donc, c'est toute une économie globale, tout un enjeu global. Et donc, l'aspect stratégique, comme je viens de le dire, du développement n'est pas suffisamment maturé dans notre pays. En revenant juste sur l'aspect maintenant pratique, il n'est pas à démontrer comment le poisson du fleuve peut être le plus cher à consommer à Kinshasa.
Alors qu'ils sont capturés localement.
Il est capturé localement. Et donc, nous devrions nous demander comment la diversité des poissons disponibles dans la proximité ne sont pas valorisés, mais c'est devenu une culture de littéralement manger que du poisson importé. Et même pire, même le poisson que nous pouvons prendre dans nos eaux profondes ici à Mwanda, ils sont hors des prix, inaccessibles pour les communs de gens. Donc c'est là la véritable question. Quand on veut parler de la question du développement du secteur de l'économie bleue en RDC, il y a lieu d'aborder les aspects structurels et planification stratégique, mais regardez également la prise en charge opérationnelle en tant qu'activité économique des subsistances des millions de personnes.
Oui, mais apparemment aussi le secteur, au fait, le secteur il est encore sous-développé, c'est encore à l'état la pêche, elle est encore à l'état artisanal. Il n'y a pas d'industrie de pêcherie en RDC, c'est ça aussi les problèmes. La demande, elle est assez élevée et l'industrie de pêche est quasi inexistante, c'est ça le problème aussi.
Oui, nous n'allons pas dire que l'industrie de la pêche est inexistante parce que nous savons que les Chinois, ils font de la production du poisson en haute mer. Mais la vraie question, c'est ce que je parlais des aspects stratégiques. La vraie question, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment le développement de l'industrie comme telle ou plutôt la viabilisation de l'économie de la pêche existante? Lorsque vous regardez la quantité du poisson qui meurt, vous savez bien que la cuvette centrale est carrément un corps humain avec une connexion névralgique extraordinaire. Mais quand vous regardez tout le poisson qui est vendu à des villes pris au-dessus du côté de l'équateur et partout, qui n'arrive jamais à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de bateaux frigorifiques qui peuvent le faire venir ici. Oui, je suis d'accord que ce n'est pas forcément développer l'industrie de la pêche qui devrait être le premier enjeu. C'est plutôt structurer la filière liée à la pêche, la filière économique pêche. Il y a des initiatives qui sont allouées parce que, voilà, il y a le président de la République qui a désigné un ancien président des pêcheurs de Maluku, par exemple, pour diriger un organe public chargé de cela. C'est des belles initiatives, mais une fois de plus, nous les disons toujours, s'il n'y a pas une planification holistique, stratégique, d'un pan de développement national, toutes les actions qui vont être mises en œuvre ne seront que des actions, entre guillemets, de saupoudrage. On va essayer de pallier à l'urgence, peut-être poser des actes de visibilité politique, mais on n'est pas en train d'aborder le fond de la question, comme je venais de vous dire, la gestion de l'eau et de la vie de l'eau.
Monsieur Junior Tutea, en dehors de la pêche, de l'industrie de la pêche qui mérite d'être organisée, est-ce qu'il y a d'autres filières, d'autres services qui peuvent découler au fait de ce secteur de l'économie bleue?
Affirmatif. L'eau, on dit toujours, c'est la vie. L'eau est une opportunité que la RDC dispose. L'eau doit être gérée de la bonne qualité. L'eau doit être une ressource stratégique pour la sécurité nationale. Aujourd'hui, nous avons les défis de la pollution des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux venait de dire récemment que nous n'avons pas de solution pour la purification de nos eaux en métaux lourds. Mais quand on fait l'analyse de l'eau qui est fournie à Kinshasa, qui est consommée à Kinshasa, c'est une eau chargée en plastique et en métaux.
En métaux lourds, oui.
Ça, c'est déjà un premier défi lié à la gestion de l'économie de l'eau. Comment nous mettons en place une stratégie pour protéger l'eau afin qu'elle soit durablement utilisée. Il y a un deuxième défi, c'est celui de l'irrigation de notre agriculture. Aujourd'hui, nous avons le problème des dérèglements climatiques qui sont une forte menace pour les moyens de subsistance des populations. Il est lieu de rappeler que les secteurs de la petite paysannerie, intégrant essentiellement l'agriculture, également la pêche et le petit élevage, représentent à peu près 90% des revenus économiques de la population de la RDC. Mais nous avons le changement climatique, les dérèglements climatiques qui sont en train aujourd'hui de perturber carrément toutes les saisons. Et donc, il est opportun de réfléchir à comment développer l'agriculture irriguée. Là également devient le véritable enjeu de la gestion de la ressource en eau. Il y a également les défis de la disponibilité de l'eau dans des régions de tension. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le voir avec la migration
des Mbororo,
qui sont
dans la partie orientale de la RDC.
Oui, et c'est un sujet dont les gens parlent très peu, mais c'est une véritable menace sécuritaire, déjà active pour les populations locales, qui sont en train de voir leurs terres, leur production agricole, leurs moyens de vie, leur culture même.
Les ressources en eau souillées par les bêtes.
Complètement envahies par ces éleveurs. Et nous sommes certains que les conflits communautaires latents qui sont en train de couver actuellement doivent être rapidement jugulés. Et donc, il y a cette question de comment gérer durablement l'eau, faire face au changement climatique et arriver à fournir des moyens économiques, des moyens de vie acceptables pour nos populations. C'est donc cette dimension intégrale de l'économie bleue alignée aux objectifs à l'objectif 14 du développement durable et à l'ensemble des ODD qui doit être prise en compte. Et je tiens à rappeler ici que le chef de l'État, dans son engagement pour son second quinquennat, a déclaré que la question de la sécurité alimentaire est désormais un enjeu de sécurité nationale. Et nous savons tous que la pêche, notamment les ressources halieutiques, le poisson et tout ce qui va avec, et donc l'eau, surtout l'eau, est un élément clé de la sécurité alimentaire. Donc c'est de ça qu'il est question, comment le gouvernement peut se doter d'une véritable stratégie nationale de développement de l'économie bleue. Et je tiens à souligner que tous ces aspects sont aujourd'hui pris en compte par différents mécanismes et même des mécanismes marchands qui permettent de générer différents types de crédits carbone, même des crédits de l'eau sont aujourd'hui valorisés sur le marché transactionnel international de la commodité liée à la durabilité environnementale.
Monsieur Junior Titea, nous rappelons que vous êtes entrepreneur et expert en économie durable. Nous vous gardons en ligne dans cette émission. Nous donnons également la parole à la population. Donc, vous allez rester en ligne. Il est temps pour nous d'aller au standard pour accorder la parole à la première vague des auditeurs. Que faut-il faire pour promouvoir l'économie blé en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine au Capi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriers de nommés service@radiokapi.net.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
La première vague des auditeurs, donc, nous allons commencer par Monsieur Wesley. Wesley, il est à Kananga. Wesley, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio de la paix. Vous m'excuserez pour la voix, je suis arrimé et aussi la toux matane. Pour l'instant, je suis en détachement, en mission de service dans le territoire de Ndemba. Mais je tiens à vous dire que la question que vous avez posée, c'est aussi bien tombé parce qu'à Ndemba, il n'y a pas d'eau. Je vous dis qu'à Ndemba, il n'y a pas d'eau. Toutes les bornes fontaines ont séché, les sources ont tari. Il y a une énorme difficulté pour la population de Ndemba au moment où je vous parle précisément dans la mission Kapinga-Ngombe. Alors, comment promouvoir l'économie bleue? C'est une question très pertinente. J'ai suivi religieusement votre invité qui a donné certaines pistes de solutions pour arriver à cette promotion. Mais moi, je voudrais commencer par vous dire que nous avons deux facteurs principaux. D'abord, le facteur de l'élevage et le facteur de l'agriculture. Ce sont ces deux facteurs, si et seulement si ils sont bien exploités, bien traités, je pense que l'économie bleue aura une promotion qu'il faille à la place qu'il faut. Alors, pourquoi je parle de l'élevage? Vous savez, monsieur Tati, ici, le ministère de l'élevage et pêche, c'est difficile peut-être d'identifier qui sont les pêcheurs et avec quel matériel on pêche ici dans la plupart des eaux que nous avons au Kassai Central. Mais désolé, nous trouvons les mamans, surtout qui font la pêche artisanale, qui parfois utilisent cette plante communément appelée titonia. Donc c'est une plante régorgeant beaucoup d'amertume, hein, beaucoup d'amertume. Et lorsqu'elles vont avec cette plante dans la pêche artisanale, on tue même les ravins, même qu'est-ce que les alvins, je voulais dire, on tue même les petits poissons et finalement l'eau est polluée. Au cas contraire, la plupart de la population dans le milieu rural, vous voulez dire, boivent de l'eau des rivières. Mais alors déjà, la pêche en amont et la population en aval utilise cette eau, voilà, la population exposée à des maladies. Et l'agriculture, vous savez que la plupart des sources d'eau ou des rivières sont souvent dans des forêts ou parfois dans des bistrots. Mais quand on veut cultiver, on coupe presque tous les arbres. Or, l'eau, si j'ai bonne idée, est formée par la nappe phréatique. La nappe phréatique ici est constituée aussi des racines. Mais lorsqu'on coupe presque tous les arbres qui sont tout autour de certaines rivières, c'est la raison pour laquelle les eaux tarissent et ça pose problème. Mais là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour promouvoir? C'est ça la question principale.
Et pour lutter contre les mauvaises pratiques de la pêche, vous avez évoqué le cas des plantes toxiques qui sont...
Nous qui gérons, nous qui exploitons, nous qui peut-être qui utilisons certaines méthodes pour nos propres besoins. Certes, l'homme a des pressions toujours exercées sur la nature, mais ces pressions ont des répercussions aussi sur la vie humaine. Raison pour laquelle, ici, on doit interpeller les ministres ou les ministères de l'industrie qui doit savoir, vous savez, la rivière Oubangui a été attaquée récemment par des déchets qui avaient été versés dans cette rivière-là à partir de l'Angola. Et ça causait...
C'était plutôt la rivière Kassai. La rivière Kassai.
Le ministère de l'Industrie, le ministère de Pêche et Élevage, le ministère de l'Agriculture doivent quand même avoir une planification normale, parce que la planification, c'est plus la gestion. Ils doivent gérer tout en déployant souvent les inspecteurs sur le terrain pour qu'ils vérifient comment se fait l'agriculture, comment se fait l'élevage, quelles sont les usines qui sont beaucoup plus utilisées, quelles sont les matières exploitées, les déchets, comment ils sont versés. C'est ça l'essentiel. Mais nous avons le ministère par les noms, mais sur le terrain, on ne le sent pas, Tati Mapoko. Voilà pourquoi je vous demande de toujours prêcher, mais tout en posant ma petite question à notre invité, de savoir comment alors, parce que nous déplorons la pollution des eaux, la promotion de l'économie bleue, comment peut-on, à ce moment que nous parlons, peut-on éviter la pollution des eaux et comment peut-on arriver à la promotion, parce que promouvoir, c'est faire avancer, faire élever, donc dans ce sens-là, comment peut-on, parce que on sent que nous parlons souvent, mais la réalisation, on ne parle pas la réalisation. Alors comment on peut y arriver? Quel conseil peut-il donner à nous les exploitants, à nous les gestionnaires, à nous tous la population, pour que nous puissions et effectivement avoir une gestion axée sur les résultats. Une gestion axée sur les bons résultats, parce que aujourd'hui nous plairons à Ndemba, je vous dis, on plaire de l'eau, on n'a pas de Ndemba. C'est parce que l'homme n'a pas exercé la bonne pression sur son propre environnement et surtout son économie bleue. Voilà ma petite intervention, Tati Mapoukou, Wesley Peter Luboya. À mission de service dans le territoire d'Ndemba. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Wesley Luboya. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Ndemba, mais vous résidez à Kananga.
Territoire d'Ndemba. J'ai quitté Kananga.
Parfait. Merci beaucoup pour ces détails. Cette fois-ci, allons à Bandundu-Ville, hein, pour donner la parole à Patti, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour, cher Tati Mapoukou. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, vous êtes à Bandundu-Ville. Bandundu-Ville, il y a le fleuve Congo et à Bandundu, il y a beaucoup de rivières qui traversent cette région du pays. Dites-nous, quels sont les constats qui se dégagent concernant la gestion de l'économie bleue, les ressources en eau dans cette partie du pays?
Ah oui, ici nous avons, tel que vous précisez là, nous avons beaucoup d'eau, mais il n'y a pas une bonne gestion, mais surtout du côté pêche. C'est là où moi je vais un peu rebondir. Bon, de la manière dont on utilise la pêche, on pratique la pêche ici, c'est déplorable. Monsieur Tati, l'invite-toi, notre auditeur qui m'a précédé a parlé des pêches toxiques que les mamans font, des pêches artisanales pour attraper ici ou même les alevins.
Oui, il a cité le cas de la plante Titonia qui est très toxique pour les poissons.
Ah oui, moi je voulais encore aller loin, il y a aussi les filets qu'on appelle le lundende. Il y a les filets comme ça qu'on appelle le lundende. Mais c'est à dire, si vous voyez ces filets-là, même un poisson prématuré, ces filets-là attrapent. Même un poisson prématuré, qu'on vient de mettre au monde tout à l'heure là, ces filets-là attrapent ces poissons-là. Bon, je me demande, les autorités voient ou ils ne voient pas. Et puis, même l'OCC aussi. Quand ce genre de filet entre dans ces pays, on ne peut pas quand même demander ces filets s'ils vont attraper quel type de poisson. Les filets qui viennent pour attraper les prématurés, on laisse ça entrer dans un pays qui se dit des droits. C'est déplorable. Bon, moi je voulais aller un peu demander à notre invité, après les constats qu'ils sont en train de faire aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voyons que l'État ne fait presque rien, on laisse ce genre de filet entrer. Nous voyons toutes formes de pêche qu'on fait. Même les moustiquaires imprégnés, on distribue des moustiquaires pour lutter contre les moustiques, mais nous voyons curieusement que ces filets-là sont
utilisés dans la pêche.
Les instruments de la pêche. Bon, l'État ne fait rien. Nous voyons nos militaires, les marins qui sont là, ils viennent là, on est dans les miquets-miquets, ils font passer nos soi-disant pêcheurs. Alors moi, je les appelle les criminels. Ils ne sont même pas des pêcheurs, ce sont des criminels. Alors, on laisse ces gens-là aller sur les eaux, faire la criminalité, tuer les poissons, les alevins. Qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à ce niveau? C'est ça ma question. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous appelez depuis la ville de Bandundu. Vous appelez Patti. Excellente journée au niveau de la ville de Bandundu. L'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Cette fois-ci, nous partons à Bounia, en Ituri, pour donner la parole à Safari. Safari, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Patti. Safari de Iga Barrière.
Oui. Iga Barrière est bordé par quel cours d'eau? Les lacs Albert?
Oui, on dirait que c'est uniquement ce lac-là parce que ce lac est déjà bien placé pour ça.
Oui, c'est parmi les lacs les plus poissonnés de notre pays.
Exactement. En tout cas, monsieur Tati, moi je dirais que lorsque les gens parlent, je sais que le Congo est un pays solution, je ne sais pas pour quel secteur ils le disent, mais... je pense que c'est mensonge. Le Congo est normalement un pays problème dont les solutions viendront forcément d'ailleurs, c'est ce que je pense. Alors, déjà versé, c'est peut-être pas possible de la ramasser. Je le dis dans le cadre où les lacs de chez nous ont déjà chuté et ils ne produisent plus normalement le poisson. Alors, si on parle de comment promouvoir l'économie verte, moi, je dirais, on peut laisser d'abord les lacs, mais faire ce qu'on appelle les cultures, je ne sais pas, pisciculture, c'est ça, non?
Alors, l'élevage des poissons.
Ça, c'est que, l'élevage des poissons, c'est là qui pourrait peut-être ajouter un peu plus dans cette économie verte, donc, je ne sais pas, blé. Alors, si on fait toujours, on a confiance en nos lacs là, avec la gérance actuelle de nos autorités, je ne sais pas si on va évoluer ou bien attraper le pouvoir de lac qui était auparavant là. Sinon, en tout cas, merci beaucoup pour l'émission.
Merci beaucoup, M. Safari. Nous rappelons que c'est depuis la ville, depuis Gabarrière que vous intervenez. Mais dites-nous, M. Safari, est-ce qu'il n'y a pas assez de poissons dans les marchés de Bounia et environ, à Gabarrière notamment, parce que Gabarrière est bordée par le lac Albert?
Oui, la présence de poissons est là, mais les poissons coûtent énormément cher. On ne comprend pas. Mais les autres disent que non, le lac Albert, de notre côté, ça ne produit plus normalement. Comme ça, les commerçants se ravitaillent au niveau de l'Ouganda. Ce qui fait que les poissons deviennent très, très, très chers chez nous. Voilà le problème.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous rappelons que c'est depuis Gabarrière en Ituri que vous intervenez, M. Safari. Excellente journée. Monsieur Julien Chitea, comment répondez-vous à nos auditeurs, hein? Commençons par Wesley Louboya de Dibaya Louboué. Monsieur Julien Chitea, vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Malheureusement, bon, on va tâcher. Ok, ça marche. Oui, vous me recevez, Monsieur Junior?
Affirmatif, je vous reçois.
Parfait. Comment répondez-vous à la préoccupation de Wesley et Louboya qui a intervenu depuis Dibaya Louboué?
Je remercie beaucoup les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent fidèlement et en particulier Monsieur Wesley, Bati et Safari qui ont apporté des contributions hautement pertinentes. Je le disais tout à l'heure, la question de l'économie de l'eau est d'abord une question de la protection et de la préservation de la ressource. Et j'avais évoqué la déforestation comme une cause majeure qui occasionne la perte de la ressource en eau. Fort malheureusement, il est constaté que il n'y a pas un engagement factuel au niveau politique pour arriver à stopper véritablement et inverser la déforestation. Personnellement, en tant que citoyen, j'ai apporté ma pierre à l'édifice au début de ce quinquennat en proposant le programme devenu programme présidentiel dénommé 1 milliard d'arbres. Il faut savoir que l'idée de ce programme était d'arriver à engager la population dans une dynamique communautaire de préservation et de restauration des couverts forestiers. Et ici, nous sommes dans un cas d'espèce du manque de respect de loi en matière de l'environnement qui délimite les espaces autour de cours d'eau qui peuvent être déboisés. Donc, sur cet aspect bien précis, je pense que, je l'ai évoqué, l'une des causes majeures de la perte de la biodiversité, c'est la surpêche et les mauvaises pratiques de pêche.
Et ça a été révélé par les auditeurs, hein?
Exactement, c'est un fait vécu. Mais c'est une grave menace économique qui va devenir même une source, au-delà de l'insécurité alimentaire, mais une source des conflits communautaires. Dans ce pays, il y a déjà eu des conflits dont les déclencheurs étaient la pêche. Et en l'occurrence, je parle de conflits désignés à l'Équateur. Et il est donc indispensable ici, certes, de constater qu'on a des problèmes au niveau de la gouvernance, et Gilles l'avait évoqué, il est indispensable d'avoir une planification stratégique nationale qui intègre l'ensemble des enjeux, notamment comment s'assurer en amont que nos ressources en eau sont préservées, sont protégées, sont maintenues viables. Ça veut dire mettre en place une politique nationale de la durabilité des ressources en eau. Ensuite, il est essentiel que les leaders locaux puissent s'approprier de l'enjeu. Il est vrai que nous, en RDC, on constate la faiblesse publique. Mais je tiens à rappeler à nos auditeurs que nous sommes des pays à forte culture traditionnelle. Et nous savons que nos ancêtres avaient une gouvernance des ressources naturelles. Ils avaient des régions qu'ils sacralisaient, qui disaient ici que personne n'aille, pendant cette période, personne ne va pêcher. Je pense, en mon humble avis, que un des premiers aspects de la solution serait une forte sensibilisation, notamment via les leaders religieux et coutumiers, de la population sur la durabilité environnementale. La durabilité environnementale est un enjeu de survie. C'est pour ça qu'on appelle ça le développement durable. Avoir la capacité de satisfaire aux besoins aujourd'hui sans compromettre les besoins des générations à venir. Donc, il y a l'aspect et la responsabilité publique, certes, mais il y a également et en premier lieu la prise de conscience collective locale.
Monsieur Junior, il y a l'auditeur de... Oui, excusez-moi, il y a l'auditeur de Iga Barrière hein, qui pense qu'il faut soutenir et qu'il faut appuyer des projets de développement des pisciculture hein, pour laisser aussi les ressources halieutiques le temps de se régénérer facilement parce que la pression elle est tellement importante dans nos cours d'eau.
Et il a absolument raison. Mais comme vous le voyez encore, il faut un incident déclencheur, il faut une personne qui prend le lead de la problématique et en l'amène vers une solution collective. Notez que le vrai défi de la RDC, c'est la mauvaise gestion des ressources. Non pas l'absence des ressources, mais la mauvaise gestion des ressources. La forte croissance démographique avec le manque de culture de la durabilité dans la gestion des ressources est en train d'exercer une telle pression que dans quelques années, nous allons nous retrouver effectivement en déficit des moyens de subsistance. Mais comment développer la pisciculture? Comment développer par exemple la culture des ressources halieutiques? C'est là, c'est des enjeux de planification locale, provincial et national. Nous revenons encore et toujours à la dimension de la planification. Mais si nous attendons, comme le disait justement à juste titre M. Safari, que les solutions viennent d'ailleurs, eh ben les solutions ne viendront d'ailleurs, ne viendront pas d'ailleurs. Il y a des initiatives privées qui sont faites. Il y a nécessité d'une conscience collective d'abord. Et ensuite, de la mutualisation des efforts, de la conscience collective, de la sensibilisation. Il est important que le Congo est vaste, nous avons l'habitude de les dire, mais les problèmes sont les mêmes partout. Mais il faut que les Congolais, à un moment, s'arrêtent, chacun individuellement, et se posent la question à trois niveaux. Les élus que nous désignons, quel est le mandat que nous leur confions? Quel est le lien entre la voix, le vote que je donne, et mon besoin existentiel ici maintenant? Premier aspect. Deuxième aspect, est-ce qu'un peuple ne peut pas s'organiser pour prendre en main son destin,
son avenir, son lendemain?
Et ici, nous parlons de comment manger. La nourriture s'épuise parce que nous l'exploitons mal. Je ne crois pas que les gens qui utilisent même les mauvais filets là le feraient s'il y avait du gros poisson. Donc il y a à un moment une continuation de la résilience. En fait, les petits filets sont devenus une solution de résilience en absence des gros poissons qui pouvaient être pêchés par les gros filets. Donc il y a lieu à un moment de se demander, nous ne pourrions pas, pourquoi nous ne faisons pas de la résilience dans le bon sens, dans le sens de la prise. Vous savez, la nature humaine, elle atteint toujours des pics sur lesquels elle prend conscience et change sa manière de faire. Et donc je pense aussi, et ça c'est à l'attention également des auditeurs de la radio Okapi, de la communauté, il est temps aussi de nous poser des questions nous-mêmes. Est-ce que nous voulons prendre en charge notre avenir à court terme et l'avenir de nos enfants? Et la question de l'eau, nous l'insistons, est peut-être l'une des principales questions de l'enjeu existentiel de notre pays. Parce que imaginez-vous ce que serait la RDC sans eau.
Sans ressources en eau.
Malheureusement. Sans eau, l'eau vient des forêts. Mais les forêts, le rythme de leur déforestation, et les collègues Wesley de Demba l'a démontré, à cause des besoins agricoles, on défriche tout et partout. Et même les taux de déforestation a augmenté encore de 6% dans la période 2021-2023. Et donc, c'est plusieurs questionnements, mais en termes des réponses aux auditeurs, moi je dirais, au-delà de ces questionnements, au-delà de ces interpellations, quelle est l'organisation endogène à mettre en place? Je propose donc la solution une démarche de prise de conscience au niveau des autorités religieuses et coutumières pour analyser les modes traditionnels des gestions durables et des ressources naturelles.
Merci beaucoup, Monsieur Junior Tutea. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur et spécialiste en économie durable. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous au Capi Service. Excellente journée et à la prochaine occasion.
C'est moi qui vous remercie et qui remercie beaucoup les auditeurs de la radio au Capi en nous encourageant mutuellement à saisir les opportunités du futur qui sont une menace existentielle direct et à court terme. Merci.
Je vous en prie, merci beaucoup. Nous avons ici dans les studios Madame Patricia Maïcha. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes présidente nationale du réseau pour le développement intégral du Congo, REDIC en sigle, et spécialiste en gestion des ressources halieutiques et économie bleue durable. Dites-nous, madame, quel état des lieux faites-vous de l'économie bleue en RDC?
Bon, l'état des lieux, tel que mon prédécesseur venait de le dire, c'est vraiment déplorable. L'économie bleue en République démocratique du Congo, moi je peux dire d'abord que c'est un contexte qui n'a jamais été pris au sérieux, qui n'a jamais été pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, l'économie bleue constitue la renaissance africaine. C'est une renaissance africaine parce que cette approche est basée sur 5 piliers. Et ces 5 piliers, c'est toute une vie, c'est tout un programme. Et nous sommes toujours en retard par rapport à d'autres nations parce que, si je me rappelle encore, en 2017, avec Junior Chitea, nous avions participé à la première conférence mondiale sur l'économie bleue au Kenya. Et la RDC était le pays ciblé tant attendu. Malheureusement, notre participation était faible, surtout la partie gouvernementale, parce que nous y avons participé comme société civile. Nos efforts n'étaient pas vraiment bien entendus.
Bien entendus, bien soutenus.
On n'a pas trouvé la place pour la RDC. Et le Kenya qui a pris en charge, qui a récupéré la situation aujourd'hui, vous pouvez voir le niveau d'avancée et ils ont beaucoup bénéficié par rapport à cette nouvelle approche. Parce que si nous parlons de l'économie bleue, ce n'est pas seulement la pêche.
Non,
ce n'est pas seulement
c'est le tourisme autour des cours d'eau, il y a d'autres activités qui se développent.
Il y a l'industrie, il y a les ressources minières, il y a la conservation de la ressource qu'on venait de le dire, il y a les infrastructures, il y a l'art.
Il y a la mobilité, les transports.
Il y a la culture, il y a les transports, sur les transports maritimes, tout ça, ça inclut l'économie bleue. Mais avec la menace que nous avons sur les ressources, parce que nous sommes en perte de nos ressources. Nos ressources sont en voie de disparition à tous les niveaux. Et c'est tout un cycle qui est en train d'être brisé et nous risquerons de rester seulement dans l'histoire, savoir que la RDC avait ceci, cela, dont les populations et les générations futures ne bénéficieront jamais de ce que Dieu nous a donné dans notre pays.
Mais nous savons, Madame Patricia, qu'au niveau de la gouvernance, l'an dernier, la CEAC, au fait, la RDC, a accueilli une réunion de haut niveau concernant la promotion de l'économie bleue avec les autorités de la CEAC. N'est-ce pas que c'est déjà un élan positif du côté gouvernemental pour bien organiser ces secteurs-là?
Oui, c'est un élan, mais il y a déjà un plan d'action sur l'économie bleue, axé tout sur les 5 piliers qu'on venait de citer ici.
Oui.
Et c'est un plan d'action déjà élaboré au niveau de l'Union africaine. Donc, il s'avère, donc ça va de chaque pays qui doit s'approprier ce plan d'action et les ramener au niveau national, mettre en œuvre ce plan d'action. Et là, nous serons en harmonie avec les autres continents. Vous voyez aujourd'hui comme
les autres pays de la région.
Les autres pays de la région et surtout les pays riverains, les pays avec lesquels nous partageons les eaux, tels qu'on le voit sur les lacs Albert et lac Édouard, les amis du côté de l'Ouganda, aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes problèmes de ressources que nous.
Non.
Parce qu'eux, ils ont compris la conservation. Comment c'est normal que nous partageons la même ressource avec l'Ouganda et la Tanzanie, mais nous allons nous ravitailler en produits de pêche en Ouganda et en Tanzanie.
C'est anormal.
C'est anormal, c'est la même ressource. Est-ce que c'est au niveau de la RDC seulement où les ressources sont perdues ou bien c'est une question de gestion de la ressource? C'est ça notre difficulté. Parce que nous partageons les lacs Tanganyika avec la Tanzanie, mais on va chercher des poissons en Tanzanie. Nous partageons les lacs Édouard et lac Albert avec l'Ouganda, mais nous allons nous ravitailler en poissons en Ouganda. Donc il y a quelque chose qui ne va pas de notre côté. Et les autres.
Pareil du côté de Congo central, l'Angola et
le Congo Brazza ici en face, voire même le Gabon. Donc, c'est ça la grande difficulté. C'est de notre côté que nous devons mettre des choses en marche et surtout la gouvernance. La gouvernance dans la gestion de la ressource durable pour que nous puissions faire bénéficier les générations futures de cette ressource-là.
Oui, mais est-ce que ces plans d'action n'est pas encore mis en marche? Il est toujours dans le document ou déjà il y a les différences, ça a déjà été amorcé dans l'opérationnalisation? Qu'est-ce qui empêche l'opérationnalisation de ces plans d'action, madame?
En tout cas, au niveau de la RDC, à part l'activité qui a été
organisée l'an dernier,
au niveau national, il n'y a rien qui est déjà en marche par rapport à l'économie bleue. Parce que c'est un plan d'action national qui doit inclure toutes les parties prenantes et toutes les filières qui sont concernées par rapport aux 5 piliers et pour voir comment... Et c'est une approche qui va générer beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de millions d'argent autour et nous n'aurons pas même de difficultés de trouver les moyens pour conserver notre ressource en amont. Et pour l'exploitation, ça va créer l'emploi, il y a beaucoup de choses, ça va développer le tourisme, mais il suffit qu'il y ait un plan d'action global qui inclut toutes les parties prenantes pour que tout soit mis en œuvre.
Oui, mais dites-nous, madame, quels sont ces 5 piliers en grande ligne, les grands de ces 5 piliers-là?
Les 5 piliers de l'économie blé, il y a la pêche et la gestion des ressources halieutiques. Donc là, c'est dans la pêche et la gestion de l'écosystème. Mmh. Il y a les transports. Quand on parle des transports, il y a le transport maritime. Il y a la gestion des ports. Il y a aussi des infrastructures qui nous ramènent vers le port. Et il y a le tourisme. Quand on parle de tourisme, donc c'est le développement sur la côte. Vous voyez, il y a les hôtels qui naissent.
Des grandes villes
qui naissent autour de nos eaux.
Les affaires qui se créent,
des populations autochtones qui en bénéficient parce qu'il y a le tourisme. Donc, en contrepartie, il doit y avoir le développement.
Exactement.
En contrepartie. Et pour encadrer aussi les populations riveraines qui ne vivent que de cette ressource-là, il y a aussi le mine et tout ce qu'il y a dans l'eau, le sable et tout ce qu'il y a comme minerai. C'est aussi l'autre pilier de l'économie blé. Le dernier pilier, c'est la culture. Donc, quand on parle de la culture, il y a l'art. Et quand le tourisme arrive,
l'artisanat,
tout ça, et la culture, ils découvrent la culture de la diversité. Parce que nous avons la chance, en RDC, chaque plan d'eau a sa diversité. Donc, il y a le poisson que vous trouvez à l'est, ça ne se trouve pas à l'ouest. Ce qu'il y a au centre, ça ne se trouve pas à l'est. Donc, chaque plan d'eau, nous avons le fleuve, nous avons les lacs, il y a
rivières.
La côte maritime, les rivières. Et chaque plan d'eau a sa spécificité. Et c'est ça la diversité qui fait aussi la richesse de notre pays.
Oui, parce que parmi les pays les plus développés, qui sont très avancés dans l'économie blé, il y a par exemple le Maroc, où nous étions en stage récemment des journalistes. Pensez-vous que nous, journalistes, nous avons également un rôle important à jouer pour sensibiliser l'opinion publique, les décideurs, dans le cadre de la promotion de ces 5 piliers de l'économie blé?
Oui, les journalistes, vous êtes déjà un grand canal de communication parce que vous devez faire la vulgarisation, vous devez sensibiliser la population et plus nous parlons de cette approche, plus nous essayons d'expliquer à la population qu'est-ce que c'est l'économie bleue et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'économie bleue. Nous pouvons alerter et le gouvernement et la population qui doit conserver tel que l'a dit Junior Tchitea parce que tout doit commencer à la base.
Oui, mais d'après vous, ce qui freine, c'est la volonté politique, c'est l'essence managériale pour que ça puisse décoller ici chez nous, l'économie bleue. Le problème, il est vraiment à quel niveau? Parce que les 5 piliers tels que détaillés, c'est clair. Pourquoi ça ne décolle pas?
C'est au niveau politique. Et moi, je me dis qu'il y a toujours de chevauchements dans des compétences. Il y a des conflits de compétences aussi dans des ministères. Parce que quand vous voyez là, ça inclut déjà 5, 7, même voire 8 ministères dans notre pays. Mmh. Pour mettre tous ces ministères ensemble, et chaque ministère doit accepter de toucher dans ce droit et ce prérogatif. Pour mettre ça ensemble, chaque ministère doit accepter de perdre quelque chose pour que tout ça entre dans le grand panier afin que cette approche soit mise en œuvre. Maintenant, avec ces conflits de compétences-là, avec le ministère, chaque ministère essaie de bloquer, les autres essaient de méfier. Voilà la difficulté. Parce que si on a mis l'économie blé sous le label du ministère de pêche, parce que dans la ressource humaine, tout ça, il y a les algues, il y a les plantes, il y a les minerais, il y a les coquilles, il y a les populations riveraines, mais il y a la ressource comme le poisson. C'est l'être qui vit dans l'eau. Mmh. Donc, c'est pourquoi la pêche a abrité
ce programme de l'économie bleue.
Mais Voilà la difficulté, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre pays. La paix, nous n'avons pas une loi qui régit la pêche dans notre pays. Or, toutes ces approches-là devraient se retrouver dans la loi. Mais comment nous pouvons travailler avec une loi de 1937 ?
Une loi obsolète, dépassée.
Dépassée. Donc, il y a un projet de loi qui souffre depuis 2016. Tantôt, ce projet de loi fait de va-et-vient entre le secrétariat général du gouvernement et le parlement. Et cette loi n'a jamais été votée. Nous ne savons pas pourquoi. Voilà aussi nos députés, les députés que nous élisons. Est-ce que nos députés sont informés de tout ça ? Parce que ce sont nos députés qui doivent nous aider à faire passer ce genre de lois qui sont bénéfiques, cette loi qui peut nous aider à révolutionner ce secteur dans notre pays et à mettre même en œuvre le plan d'action de l'économie bleue.
Madame Patricia Maïcha, nous rappelons que vous êtes présidente nationale du Réseau pour le développement intégral du Congo et spécialiste en gestion des ressources halieutiques et économie bleue. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.